Et il est temps pour moi d'accueillir Nicole. Bonsoir à vous, Nicole.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci d'avoir sélectionné mon appel. Moi, je voudrais parler d'un sujet très sérieux puisqu'il s'agit de mon rapport avec la mort. J'avais eu envie de vous appeler suite au témoignage d'une dame qui parlait du décès, de la mort douce de son mari dans ses bras.
Oui, je me souviens très bien, oui.
C'était il n'y a pas si longtemps, un week-end, c'est sûr.
Il y a quelques semaines, oui.
Oui, il y a quelques semaines. Et j'avais envie d'appeler parce que ce n'est pas du tout l'idée, ce n'est pas du tout l'expérience que j'en ai, moi, par rapport à la mort de mon père qui souffrait, ma mère qui allait se suicider. Elle avait un cancer et elle souffrait énormément, mais c'était dans les années 80, donc on avait quand même pas tout à fait les mêmes médicaments que maintenant.
C'est vrai.
Et puis donc, jusqu'à il y a 4 ans, j'allais bien. Mon mari avait un Alzheimer qui évoluait, mais qui n'était pas diagnostiqué. Et il y a 4 ans, moi, on m'a trouvé un mélanome. Et depuis ce temps-là, eh bien, en fait, je suis toujours soignée pour mes mélanomes, mais j'ai dû placer mon mari pour pouvoir me soigner parce qu'il est en JR2 actuellement et il serait impossible que je le laisse pendant quelques heures à la maison. Il fuguerait, il ne saurait pas se nourrir. Enfin, bon, ouais. Bref, j'ai dû le placer, ce qui fait que déjà lui aussi... Depuis maintenant deux ans qu'il est placé, eh bien, il a eu 3 opérations. À chaque fois, je me pose le problème, et s'il mourait. J'ai eu aussi l'année dernière un cousin, moi, qui est décédé, qui avait 15 jours de plus que moi. On était comme 2 frères. Ma meilleure amie qui est décédée aussi. Les 2 sont décédés d'une crise cardiaque. Donc, ça a été rapide. Et autrement, mon approche également avec la mort, eh bien, c'est que j'ai eu des grossesses très, très difficiles. Je rentrais à 2 ou 3 mois pour une fausse couche et je ne ressortais jamais. Et je ne m'étais même pas attachée à l'enfant que je portais. En fait, je savais que je pouvais les perdre d'une minute à l'autre, donc j'étais habitée par un monstre. Moi, c'était le mot que je m'étais placé dans la tête pour éventuellement, si je faisais une fausse couche, et bien ma foi, j'étais pas forcément attachée à l'enfant. Et je devenais mère et il fallait que je m'adapte à l'enfant. Enfin, c'était vraiment compliqué tout ça aussi.
Oui, j'ai l'impression, oui.
Oui, il y a des choses quand même un peu compliquées. Et ce que je voulais dire, oui, c'est... Alors, moi, ce qui me faisait réagir, oui, c'est que j'ai pas du tout le même rapport avec la mort. C'est-à-dire que je redoute la mienne, mais parce que précisément, j'ai aussi accompagné une belle-sœur qui est morte à 50 ans. Elle avait l'âge de 50 ans, il y a 6-7 ans, 5 ans. 5 ans. Et également une cousine, elle est morte à 60 ans, d'une maladie de Charcot, toutes les 2. Et j'étais accompagnée jusqu'au bout, effectivement. Et la différence avec l'autre dame, c'est que quand ces personnes ont été très mal, parce que ces personnes ont fini étouffées, et en fait, quand elles étaient vraiment très mal, elles étaient hospitalisées. Et moi, je ne pouvais plus être là. Je ne pouvais plus les voir. Autant je les ai accompagnées, je leur ai parlé. On a communiqué jusqu'à, je dirais, 8 jours avant leur décès, en fait. Et j'ai pu aller les voir à l'hôpital. Mais sincèrement, je n'avais pas envie de rentrer dans la chambre.
C'est trop dur, oui.
C'est quelque chose que je peux pas faire. Je peux accompagner jusqu'à un certain seuil, mais au-delà d'un certain seuil, je peux pas. Quand la personne, je la vois qui s'en va, je peux pas. C'est ma limite à moi.
Oui, mais c'est très intime le rapport à la mort, vous savez.
Oui,
et c'est là quand on vous écoute tous et toutes qu'on se rend compte que chacun est très différent par rapport à ça. C'est lié à tellement de choses.
Oui, bien sûr.
À l'éducation, aux croyances, à ce qu'on a vécu. Oui. Et vous le dites très bien, d'ailleurs, vous avez vécu des expériences extrêmement difficiles. Est-ce qu'enfant, déjà, vous avez été confronté à des morts douloureuses?
Eh bien, je ne m'en souviens pas en tant que mort douloureuse, mais par contre, je sais, et je suis sûre d'avoir vu pas mal de choses ou senti plein de choses, juste après moi. Alors moi, je suis l'aînée de quatre enfants, et juste après moi est né un enfant, juste après moi, 2 ans, moins de 2 ans après moi, est né un frère. et qui est mort pendant l'accouchement, puisqu'il est mort avec le cordon autour du cou. Donc, c'était des accouchements à domicile à l'époque. Et donc, ça, bien sûr, je n'étais sans doute pas tout à fait à côté, mais en fait, j'en ai perçu beaucoup de choses.
Bien sûr, évidemment.
Et c'est pour ça que, moi, je crois que mon premier traumatisme par rapport à la mort se situe là, même si je n'avais pas de mots, mais je l'ai vécu, puisqu'à l'époque, on vivait... moi, je suis née dans une ferme, on vivait très proches les uns des autres, donc toutes ces choses qui ont été dites, que moi je ne comprenais sans doute pas, mais je les ai senties.
Et les émotions de vos parents aussi, bien évidemment.
Et bien sûr, bien sûr.
Un enfant absorbe tout ça.
Oui,
hein.
Oui.
Enfin, pas forcément avec des mots d'ailleurs, mais même simplement avec des ressentis, et
oui,
souvent
voilà.
Sans comprendre justement quand il n'y a pas assez de mots.
Oui, enfin,
il peut y avoir
y avait
des peurs,
peut-être des mots, mais je n'y avais pas encore accès tellement. Moi, j'avais tout juste 2 ans,
mais
à
oui,
peine 2 ans.
Ça, oui, c'est pour ça.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai vécu déjà des choses douloureuses. Mais j'ai eu une belle vie autrement. Hein. J'ai eu un travail d'infirmière. Je n'aimais pas que les gens meurent. J'ai eu très peu de décès dans ma carrière, ce qui est quand même assez incroyable, mais c'est vrai.
Oui, c'est curieux de faire ce métier quand on a ce rapport-là à la mort. Ça doit être difficile par moment, non ?
Eh bien oui, mais je crois que ma mère aurait aimé être infirmière et elle n'a pas pu pour des raisons. Elle avait son frère qui avait fait des études. Elle n'a pas pu. Donc voilà, moi je suis devenue infirmière et j'ai beaucoup aimé mon travail, mais infirmière pour sauver les gens, non pas pour les accompagner dans...
Oui, mais quelquefois on n'a pas forcément le choix.
Hein. Ah mais je vous l'accorde complètement, oui.
Ça serait bien,
c'est
mais
vrai.
Bon.
Oui, c'est vrai.
Mais vous me dites que paradoxalement, vous n'avez pas vécu tant d'accompagnement à la mort dans votre métier.
Non. Pas vraiment, à part les décès là, qui sont survenus il n'y a pas si longtemps. Si ma mère est quand même décédée, elle, d'un cancer aussi. Moi, j'ai un cancer. Je veux dire que ça aussi, ça me fait que j'ai pas... j'en ai voulu quand même, mère, d'être décédée, non pas d'un cancer, mais elle s'est suicidée, quoi, ça aussi.
Ça, c'est particulièrement dur pour ceux qui restent, évidemment.
Oui. Oui, et à la suite de ça, j'avais un frère, mon plus jeune frère, qui avait 15 ans à l'époque, et qui s'est suicidé, lui, 3-4 ans après, à la suite d'une rupture sentimentale. Mais je pense qu'il avait aussi mal vécu le décès de ma mère. Mais bon, ceci étant, tout ça, c'est des choses que quand même j'ai acceptées. Hein. Ils avaient le droit, l'un et l'autre, de se suicider pour des raisons différentes. Mais bon, je comprends tout ça. Mais bon, mon problème, oui, c'est que, en plus, je trouve que je suis complètement isolée, puisque je vous dis, j'ai perdu mon cousin sur lequel je pouvais m'appuyer, ma meilleure amie qui est décédée également il y a moins d'un an, là, mon mari qui maintenant est en EHPAD, lui, il est complètement absent. Je dis toujours que c'est lui qui m'a quittée, non pas moi qui l'ai quittée, parce qu'en fait.
Ça illustre bien l'Alzheimer, oui, bien sûr.
Oui, il a l'Alzheimer, et je dirais qu'heureusement qu'il est placé, parce que je le supporte. Un quart d'heure, enfin, c'est terrible, il fait n'importe quoi. Il me reconnaît pendant une minute, j'espère que ça va durer, je vois des petits éclairs dans son regard, et puis brutalement, il n'y a plus rien. Donc je sais que voilà, je ne peux pas compter sur lui. Mes enfants sont loin, j'ai une fille qui vit aux États-Unis, j'ai un fils qui vit pas très loin, mais lui supporte pas de voir son père dans cet état-là, ce qui fait qu'il vient pas beaucoup. En plus, il a des jeunes enfants, donc quand il vient, les enfants sont là, on peut pas parler non plus. Je sais pas ce qu'on pourrait se dire, mais certainement des choses qui feraient que je me sentirais moins seule face à tous ces gens-là qui disparaissent. J'ai l'impression de... moi, avec ma maladie, j'ai l'impression que je résiste quand même, et puis tout le monde meurt autour de moi. C'est très triste ce que je dis, mais c'est ça.
Quelles sont vos croyances autour de la mort et de ce qu'il y a ou pas après ?
Ah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose après. Mais ça ne me dérange pas en soi qu'il n'y ait pas grand-chose après. Moi, j'ai vécu... avec une grande famille autour de moi. C'est pour ça que je suis complètement déstabilisée, parce que j'ai toujours eu des grands-parents, des oncles, des tantes, et maintenant, j'ai plus personne, quoi. Même mes enfants sont loin, en fait, et j'ai plus grand monde. Et Alors, vous me posez la question de savoir ce qu'il y a après. Sincèrement, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas une préoccupation pour moi, ça. C'est plus la souffrance qui me fait peur. C'est pas trop ce qu'il y a après. J'aurais aimé moi, j'aime beaucoup le dialogue avec les gens. J'ai toujours connu ça, parler, même avec les oncles, les tantes, tout le monde n'était pas d'accord, les idées politiques et compagnie. Moi, j'aimais beaucoup les débats, toutes ces choses essentielles qu'on se disait autrefois. Moi, je suis toute seule actuellement. Avec le Covid, en plus, ça fait qu'on souffre d'autant plus de solitude, quoi. On ne voit pas grand monde. Et puis, moi, je me retrouve sans mon mari. Je suis un peu perdue. Ça faisait quand même combien de temps qu'on était ensemble? 45 ans. Donc, lui, il est parti là aussi. Enfin, quand je dis qu'il est parti, il est encore là. Même ça, ça m'agace un peu parce que il est là et il n'est plus là, quoi, en fait. Dans un entre-deux là qui est.
Vous n'avez pas accepté encore visiblement la maladie. Hein. Parce que vous lui en voulez, ça vous agace, vous dites que vous ne le supportez pas. Mais il est malade, donc
c'est vrai. Mais vous avez complètement raison, et c'est sûr.
Oui.
Et ça fait 10 ans que je le sais, en fait. J'ai vu sa maladie s'installer, et j'arrivais même pas à en parler non plus, parce que j'avais l'impression de le trahir. Le diagnostic a été posé, que quand moi j'ai eu mon problème, il a fallu que je me débrouille pour le faire placer. Donc il a fallu que je le fasse consulter. Il ne voulait pas consulter. Il savait bien qu'il avait un problème. Et donc les deux pathologies nous sont tombées dessus. Moi, à un moment, je disais que j'étais malade à 200%. Ce n'est pas banal quand même.
Oui, c'est vrai.
Il fallait que je fasse les démarches pour deux pathologies. 15 jours, je m'occupais de lui. 15 jours, je m'occupais de moi. Je ne pouvais pas faire autrement. Et je l'avais en plus, lui, qui mélangeait tous les papiers et puis qui me perdait tout. Enfin bon, bref, c'est du passé. Mais
il a quel âge, votre mari?
Mon mari, alors moi j'ai 72 ans et mon mari a 74 ans, c'est-à-dire qu'il a été Alzheimer.
Assez jeune, oui, c'est ce que je me disais.
Assez jeune, ouais, oui. Je crois qu'il n'avait même pas fini de travailler. Déjà, j'avais remarqué qu'il avait du mal à s'orienter. Donc, ça m'avait...
Vous l'avez compris avant lui, vous pensez?
Oh, je ne sais pas.
Il y a 10 ans à peu près, vous m'avez dit que ça a commencé.
Hein, ah oui, il y a même... Il y a au moins 10 ans, parce que c'était quelqu'un qui s'orientait beaucoup mieux que moi. Moi, je peux me perdre facilement. Mais lui, il s'orientait très, très bien. Et on sillonnait souvent la France. Et jamais il se trompait. On avait une carte pour au cas où on en ait besoin. Mais jamais il avait besoin de carte. Lui, quand on allait n'importe où en France, il savait y aller sans carte. Et il y a 10 ans déjà, on n'allait pas très loin, on allait simplement dans le nord de la France ou dans la région parisienne et il se retrouvait pas. Donc j'avais trouvé ça étonnant qu'il s'y retrouve pas. Et en plus, comme il se rendait compte, comme il avait l'habitude de se retrouver, donc il pouvait chercher très longtemps et ça m'agaçait au plus haut point, ça. Et je ne pouvais pas dire il a un problème d'Alzheimer parce qu'il avait que ce problème d'orientation, donc c'était quand même assez rare qu'il était en difficulté. Et il avait conservé aussi plein d'amis, mais qui en fait vivaient à son profit parce qu'en fait il payait.
Ça s'appelle pas des amis, ça s'appelle les.
Oui, mais c'était des amis à lui qui disaient. Oui, mais en fait, ils lui ont soutiré de l'argent, ils lui ont pris plein de matériel qu'il avait. Mais c'est pas très grave ça, les problèmes de tout ce qu'il a perdu. Enfin, il a. Je trouve que mes 10 dernières années, j'aurais dû m'occuper de sa maladie, de la faire identifier beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, j'ai perdu un peu de temps là par rapport à ça. Mais je ne savais pas comment faire. J'étais un peu perdue par rapport à ça.
C'est pas évident parce qu'on n'est pas forcément du métier non plus, et puis ça évolue différemment selon chaque personne. Et puis c'est vrai que c'est même face par rapport à lui. Comment l'avez-vous géré quand vous avez commencé à sentir vraiment qu'il y avait un problème? Vous lui avez dit clairement?
Je compensais.
Oui, d'accord.
Et je vois que tout le monde fait pareil parce que j'ai une cousine qui a le même problème avec son mari actuellement. Bon, il n'est pas dans le même état que mon mari, mais elle compense. Hein. Elle répond à sa place, comme moi je l'ai fait pendant je ne sais pas combien de temps. Mais le problème, c'est que moi j'avais l'impression que si je disais qu'il ne comprenait pas, j'avais l'impression que je le trahissais, en fait. Je ne sais pas te dire les choses.
Oui, mais en même temps, c'est lourd à porter, de porter une personne comme ça, en essayant de compenser ses manques.
Oui, ben oui, mais pourtant, c'est ça.
Oui. Jusqu'au jour où vous-même, votre corps vous a dit stop aussi. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Mon corps m'a dit stop, oui, c'est vrai. Oui. Et puis là, il a fallu que je m'occupe et de moi et de lui. Et que je le place. Mais je ne regrette pas qu'il soit placé, pas du tout. Il est très bien là où il est. Je n'avais pas le choix, quoi, parce que maintenant, je n'ai plus personne qui pourrait le garder, parce que j'ai mon ami qui le gardait, mon cousin qui pouvait s'en occuper aussi, mais là, je n'ai plus personne. Quoi, là. Donc, il est placé, il est bien, je reconnais qu'il est bien. Et je le vois qu'une fois par semaine. Et ça me suffit parce qu'en fait, moi, j'ai quand même aussi un traitement qui me fatigue énormément. Donc,
Qu'est-ce qu'on vous donne comme traitement ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'on vous donne comme traitement, là, en ce moment ?
Alors, actuellement, j'ai un traitement par immunothérapie.
Et vous le supportez bien ?
Je le supporte relativement bien.
Non, c'est une chance, alors, ça, c'est bien.
Oui, c'est une chance. Ouais. Et je voudrais que ça me laisse encore quelques bonnes années devant moi. Mais bon, voilà, je ne sais pas. C'est un cancer qui est jugé agressif. On m'a dit qu'on ne parlerait jamais de rémission. Ça, c'est vrai aussi, on a bien raison, parce qu'on a essayé d'espacer les séances d'immunothérapie. Et puis, en fait, j'avais des ganglions qui étaient réapparus. Donc, il a fallu reprendre un rythme plus soutenu. Mais bon, je supporte quand même pas trop mal. Et j'arrive encore à gérer ma maison et puis faire encore des petites choses. Mais j'aime bien le jardin, je me ressource comme je peux.
Oui.
Mais c'est la solitude. Moi, j'ai jamais vécu comme ça. Il a fallu que j'arrive à 72 ans, 70 ans, on va dire, pour être toute seule comme ça. En plus, en plein confinement, là, on voyait personne.
C'est malheureusement un peu l'évolution de la vie. Plus les années passent, plus on perd des gens autour de nous.
Hein. Mais oui, c'est vrai aussi.
C'est rare de vieillir en regardant tout le monde. Hein.
Comment ?
C'est rare de vieillir en regardant tout le monde.
Non, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Quelqu'un m'a dit un jour une phrase que j'ai jamais oubliée. Il me disait, tu sais, il faut que les gens avant nous soient morts pour qu'on ait eu de la place. Et nous, il faut qu'on meure pour leur laisser de la place aussi. C'est le cycle de la vie. C'est comme ça. C'est le package. Oui. C'est la vie et la mort.
Oui. Oui.
Et oui.
Mais j'accepte pas. J'accepte les choses, mais je les avais pas anticipées. Je crois que c'est pour ça que je suis aussi démunie.
Qu'est-ce que vous auriez voulu en anticiper, par exemple ?
Eh bien, non, mais moi, jusqu'à il y a 4 ans, j'allais très bien. J'avais des journées remplies. J'étais investie dans pas mal d'associations. Oui, j'avais un emploi du temps assez chargé. Donc, je pensais qu'au moins pendant encore 10 ans, j'aurais réussi. Mais je voyais bien, par contre, que mon mari, lui, il ne suivait pas. Mais néanmoins, je pensais qu'on aurait pu encore avoir quelques bonnes années. Pour moi, je mettais au moins 10 bonnes années, voire plusieurs dizaines de bonnes années devant moi. Et puis là, ben, la maladie m'ayant rattrapée.
Mais qui peut anticiper la maladie, Nicole ? Personne ?
Comment ? Qui peut anticiper qu'un jour...
Ah
mais non, mais ça c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas un tempérament qui accepte les choses facilement.
Et c'est ça qui vous fait du mal, c'est ça le problème.
J'accepte. Je sais qu'on est tous programmés pour mourir. Ce n'est même pas un souci, je le sais, ça. Mais j'accepte. J'ai un cancer, je le sais. Je vais me battre comme je peux, mais j'ai surtout l'impression de ne pas être une bonne combattante. Mais c'est une impression vague et diffuse qui repose sur pas grand-chose.
Ça voudrait dire quoi, être une bonne combattante ?
Eh bien, je sais pas, mais quand je voyais Bernard Tapie parler de son cancer, il en parlait d'une autre façon que moi.
Oh oui, là, vous prenez un extrême. Il avait une personnalité quand même particulière.
Bien sûr. Non, je reconnais, oui, je reconnais.
Vous me disiez tout à l'heure avoir été bénévole dans plusieurs associations, c'est ça?
Oui.
Et aujourd'hui, alors, pourquoi avez-vous arrêté?
Eh bien, je n'ai pas arrêté complètement, mais pas mal d'associations ont quand même une activité moindre. Et puis même moi, j'ai dû quand même infléchir mon rythme. Oui, je suis obligée de... j'ai des rendez-vous quand même réguliers là où je suis soignée pour mon cancer, donc je peux plus ni le lundi, je peux plus le jeudi, je peux plus tel jour. Enfin, je veux dire que je suis obligée de m'occuper de moi aussi.
Oui, je comprends, mais c'est important de garder un lien quand même avec l'extérieur, même s'il est moins fréquent qu'avant.
J'essaye. Oui.
Ça vous permet quand même de voir des gens, d'avoir des échanges encore.
Mais j'ai dû me réinventer des gens autour de moi que je n'avais pas parce que, précisément, des piliers là pour moi.
Alors, il y a quelqu'un qui doit vous connaître qui dit comment vont ces enfants à Nicole. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a déjà entendu sur l'antenne.
Je ne sais pas si quelqu'un me connaît. Comment mes enfants vont bien. Mes enfants vont bien.
Le message n'est pas signé, mais on va rassurer cette personne. Donc, vos enfants vont bien.
Oui, oui, oui.
Bon.
Mais je n'ai pas beaucoup de nouvelles, en fait. Mais bon, ils vont bien. Mais par contre, eux n'acceptent pas la maladie comme moi, non. Je pense qu'ils ne l'acceptent pas du tout. Mais ça, je respecte, en fait. Je pense qu'ils ont le droit aussi de... J'aurais aimé, par exemple, qu'ils voient leur père, mais non, ils ont décidé de ne pas le voir, donc tant pis.
Mais j'ai toujours un peu de mal avec les gens qui n'acceptent pas ce qui est. Quand on n'a pas le choix face à une situation, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse ne pas accepter quelque chose. Que ce soit douloureux, certes, que ce soit une épreuve, bien sûr, mais ne pas l'accepter, ça sert à quoi ?
Mais je vais vous dire, moi qui ai accompagné donc, deux personnes qui sont mortes d'une maladie de Charcot, eh bien, j'ai entendu des personnes de ma famille qui sont des gens qui pourtant n'ont pas peur de grand-chose, qui ont vécu à la campagne, qui ont vu plein de choses, et qui supportaient pas de voir ces deux personnes qui sont mortes. Elles pouvaient plus parler, pouvaient plus marcher, et ils n'arrivaient pas à les voir. Je sais pas, les gens ne sont pas tous égaux face à la...
C'est la peur, alors c'est pas l'acceptation, c'est la peur.
Oui,
c'est le rejet. Pas.
Oui, bah, c'est la peur, vous avez raison. C'est la
plus
peur,
ça que l'acceptation.
Oui,
alors,
oui.
Oui, probablement que ça les confronte à leur propre mort à eux.
Oui,
c'est souvent ça,
je
d'ailleurs.
Sais pas.
La maladie aussi, on a peur de la maladie des autres parce qu'on se projette.
Oui.
D'un seul coup, on se dit, mais et si moi ça m'arrivait quoi. Souvent c'est ça, je crois, aussi.
Je ne sais pas ce qui leur faisait peur. Pourtant, c'est des gens qui sont... C'est des oncles, entre autres, qui sont tout à fait courageux au quotidien. Et puis là, ils ne pouvaient pas.
Et là, vos enfants, vous me dites que par rapport à leur père, ça c'est trop difficile pour eux.
Oui. Ah oui, non, mais ça, ils l'ont jamais vu. Depuis qu'il est en EHPAD, ils ne sont jamais allés le voir.
Ils ne l'appellent même pas ?
Je sais pas, je sais pas, parce que je fais pas d'enquête, mais moi je respecte ça. Enfin, je suis peut-être trop indulgente, moi, mais ça ne me dérange pas trop que... Mon mari n'est pas malheureux, lui, là où il est placé, il est un peu chez lui maintenant, il a pris ses repères. J'essayais même de le sortir l'année dernière, j'y arrive plus maintenant parce qu'il a eu une intervention, il s'est cassé le fémur l'année dernière et depuis ce temps-là, il n'arrive plus à monter dans ma voiture, donc je ne veux pas le ressortir. Mais il est tellement bien, je l'amenais à la maison, à chaque fois qu'on repartait, il grognait un peu. Maintenant, je crois qu'il ne grognerait plus parce qu'il ne se rendrait pas compte. Mais je trouve qu'il est bien là
où il est.
Il
est protégé en tout cas.
Oui, mais il sent bien parce que je lui dis ben, « je m'en vais », il me dit « oui », mais ça ne l'affecte pas. Je dis ça, mais ça me fait mal de dire ça quand même. Je lui dis « je m'en vais », il a l'air de s'en fiche complètement. Quoi. Mais,
Non, il vit une autre réalité qui est la sienne, c'est tout.
Oui, mais c'est vrai, mais ça me fait mal au ventre, c'est terrible ça. Je l'ai encore vu cet après-midi et puis J'arrive, je viens au-devant de lui, là, il me fait un grand sourire, je ne sais pas s'il me reconnaît, je ne sais pas qui je suis pour lui.
C'est ça qui est terrible avec Alzheimer, c'est qu'on doit faire le deuil de quelqu'un qui est encore vivant.
Ah oui, non, c'est terrible, ça c'est vrai, oui.
Et ça aussi c'est un travail important, c'est un chemin d'acceptation.
Oui.
Et tous les gens qui vivent ça le disent, hein. Il y a des étapes à passer.
Oui.
Dans les rares moments où il vous reconnaît, vous arrivez à avoir des échanges ou c'est trop court, c'est trop rapide?
Oui, on a des échanges.
Ah, quand même, des choses ouais. un peu réalistes.
Ouais.
Quoi,
oui, mais alors le problème, c'est... Oui, c'est idiot d'ailleurs ce que je veux dire. Pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, quand je l'ai vu... Il arrivait devant moi. Il m'a souri, mais il m'a fait un grand sourire, comme si vraiment il me reconnaissait. Et moi, bêtement, j'ai cru qu'il allait continuer à me reconnaître, quoi, en fait. Et puis non.
Voilà, c'est là où il y a encore un travail pour apprendre à lâcher prise là-dessus, ne pas attendre. Ne pas attendre ce qui ne viendra pas, parce que ça vous fait du mal.
Mais oui, ça me fait du mal, c'est vrai. Mais néanmoins, je m'oblige encore à aller le voir tous les 8 jours, parce que j'en ai la force et parce que ça fait quand même 40 ans qu'on était ensemble, c'est pas banal non plus. Et je vous dis, moi je dis que c'est lui qui m'a quitté, non pas moi qui l'ai quitté.
Il y a un peu de ça, oui, c'est vrai.
Oui, enfin ça m'aide en tous les cas, moi, je pense. Mais c'était... On a eu une belle vie ensemble, on a... Et tout ça est par terre, quoi. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. C'est la vie, en fait, c'est pas... Mais je me plains de rien, moi, en fait. C'est simplement la mort, là. Moi, je voudrais pas une mort violente, comme ma mère a eu, comme mon père a eu, comme les deux personnes qui ont traîné quand même pas mal de temps, et trop longtemps, je trouve.
Malheureusement, on la choisit rarement, sa mort. En attendant,
surtout,
oui.
Je voulais dire, quand on est bien portant, on essaie de ne pas y penser du tout. Moi, j'y pense bêtement, là, bêtement non, j'y pense forcément parce que je suis confrontée à ça. Et je me sens démunie. Je n'ai plus, comme on avait autrefois de la famille autour de soi, j'ai des enfants, hein, c'est pas un souci. Je sais que ce jour-là, ils seront quand même là, c'est pas... un problème, mais quand mon mari a été opéré 3 fois l'année dernière, 3 fois, je me suis dit, il va peut-être pas se remettre de l'anesthésie, quoi. Et vous étiez
seule pour affronter ça.
Oui, voilà, c'est ça. Mon ami était là la première intervention, et après, non, les 2 premières interventions, elle était encore là. Et on en parlait quand même.
Comment je peux vous aider, Nicole? Est-ce qu'on peut demander peut-être lancer un appel si des gens qui sont dans votre situation ont envie de vous appeler pour créer un peu un contact, des échanges? Est-ce que ça vous plaît?
Ah oui, moi je veux bien, oui.
Bon, ben on va faire ça.
D'accord.
Peu importe la région, puisque ça peut se faire par téléphone. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui souhaitent entrer en contact avec vous pour établir un lien et puis avoir des petits échanges de temps en temps, ça pourrait vous faire du bien.
Oui.
Ben écoutez, l'appel est lancé.
D'accord.
Et puis on vous transmettra les numéros de téléphone qui, j'en suis sûre, arriveront. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre situation aussi.
Mais oui, je pense, parce que j'ai voulu participer à des groupes de parole autour du cancer. C'est la Ligue contre le cancer qui fait ça.
Oui.
Et en fait, eh ben ça, c'est pareil. Depuis le Covid, eh bien, au moins dans la ville que j'habite, il n'y a plus beaucoup de monde à se présenter pour ces réunions.
C'est un peu cassé l'élan, ça je vous l'accorde, oui.
Oui, voilà.
Il faut relancer tout ça maintenant.
Eh bien oui, voilà, c'est ça, parce que j'aurais bien aimé, moi. On ne peut pas parler de la mort avec n'importe qui. Enfin, je trouve, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Et précisément, je pensais qu'il y aurait quand même des personnes intéressées pour parler, pas forcément de la mort, mais parler quand même de problèmes autour du cancer. Eh bien non, il n'y a plus personne actuellement. Bon, peut-être qu'en septembre, ça va reprendre, mais sincèrement, j'ai essayé et je n'ai pas réussi, là, pour le coup.
Il y a Coralie qui envoie un petit message en disant que vous la touchez beaucoup et qu'elle vous admire. Elle dit « Elle saura vaincre sa maladie, j'en suis sûre et je vous embrasse », dit-elle.
Merci.
En tout cas, le message est lancé, Nicole, et je suis persuadée
D'accord.
qu'il y aura des appels pour vous.
D'accord.
Et que vous allez recréer un petit peu ces échanges et ces dialogues par téléphone avec d'autres auditrices, d'autres auditeurs.
D'accord, ben, je serai contente, oui.
Mm-hmm. Bon, on vous transmettra tout ça. En tout cas, je vous embrasse, Nicole.
Moi aussi. Merci de m'avoir écoutée.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Au revoir.